Donc, on remercie Jean-Marc Desjean, Yolande Villemaire pour ce coup d'envoi que je ne qualifierai pas, que nous avons bien entendu. Alors, ce matin, vous entendrez dans l'ordre Karim Larose, Philippe Peck, Rodney Saint-Éloi, Pierre-Yves Soucy et Maxime Catelier. Alors, Karim Larose enseigne au département de littérature de langue française de l'Université de Montréal et est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la littérature québécoise et le discours culturel. Ses recherches actuelles portent principalement sur la poésie québécoise du 20e siècle. Il a publié en 2004 un ouvrage de synthèse intitulé « La langue de papier, spéculation linguistique au Québec, 1957-1977 ». En partenariat avec la Société Radio-Canada, il a inauguré récemment le Centre d'archives Gaston Miron, qui accueille une collection de plusieurs milliers de documents radiophoniques et télévisuels sur la littérature ainsi que sur l'histoire culturelle, intellectuelle et politique du Québec. Enfin, à l'automne 2008, il a publié, en collaboration avec Manon Plante, « Intervention critique », une édition annotée des essais, notes et entrevues de Gélénaud sur la poésie, la littérature, la culture et la politique. Donc, nous allons entendre Karim Larose.
Alors, bonjour, merci Claude. Ma présentation s'intitule « Le contretemps automatiste ». Je vais parler, je vais aborder la question en passant par l'œuvre en prose de Gélénaud essentiellement. J'aimerais donc commencer avec une citation. Au début des années 60, donc le poète Gélénaud, pour ceux qui ne le connaissent pas, né en 1920, mort en 96, est considéré comme l'un des héritiers directs du surréalisme au Québec. Donc, au début des années 60, Hainaut est journaliste et chroniqueur. Dans un article assez intéressant, il parle du Canada français littéraire et relève avec un peu d'amusement et de perplexité le paradoxe suivant. En nous alignant sur la France, je le cite, « nous avons le plus souvent emboîté le pas au mouvement poétique d'arrière-garde, ce qui ne laissait pas de permettre à nos écrivains de passer pour des avant-gardistes. » Ça semble une remarque un peu anodine, mais ce n'est pas tout à fait ça, à mon avis. C'est une réflexion sur la difficulté de penser l'histoire littéraire québécoise qui met directement en jeu la possibilité d'envisager une généalogie et donc un héritage qui se survivrait d'une œuvre à l'autre. Et Hainaut formule cette réflexion dans un texte assez bref sur un poète aujourd'hui à peu près oublié, Paul Morin, donc poète néo-symboliste, actif à partir du début des années 10 et qui édite, justement au début des années 60, ses œuvres complètes, après un silence de près de 40 ans. Autrement dit, non seulement Morin est-il néo-symboliste au moment où Apollinaire publie « Alcool », mais puisqu'il se tait pendant plusieurs décennies, même son avant-gardisme d'arrière-garde est perdu en tant que legs, en tant qu'héritage, jusqu'au moment où, remis en lumière dans les années 60, il apparaît d'emblée caduque et dépassé par le travail de trois générations poétiques successives, au moins, donc celle d'Alain Grandbois, de Saint-Denis Garneau et de Claude Gauvreau. Sur plusieurs plans, il y a donc là une sorte de rendez-vous manqué en raison d'un ironique et cruel contretemps littéraire. Et c'est bien là tout l'intérêt de la remarque d'Hainaut. À ses yeux, cet écheveau historique, somme toute assez curieux, qui contribue à mettre en cause la linéarité de toute histoire littéraire, n'est pas un exemple isolé. Hérité au Québec, que ce soit de Néligan, de Garneau, d'Anne Hébert, ou plus largement de la France ou des États-Unis, va rarement de soi. Parce que l'histoire semble parfois s'écrire à rebours, parce qu'elle est minée, brouillée ou suspendue par des contretemps de tous ordres. Du surréalisme français à l'automatisme québécois, les effets de déjà-vu ne sont jamais bien loin. C'est un peu ce dont j'aimerais parler ici de façon très libre et un peu cursive, d'un certain héritage du surréalisme et d'un héritage incertain. D'une position difficile aussi dans l'espace littéraire. Si l'avant-garde, traditionnellement tendue vers le futur, est militante, que peut l'arrière-garde d'une avant-garde? Dans quelle direction regarde-t-elle? Et comment pense-t-elle son temps propre? Toute la modernité québécoise, pourrait-on dire, a eu maille à partir avec ce paradoxe. Comment avancer dans l'histoire? Comment dialoguer sur le plan littéraire à partir d'une telle position? Comment peut s'énoncer une histoire littéraire dans de telles conditions? Et comment, en somme, rattraper le retard pris sur les avant-gardes dites historiques? Depuis les travaux du sociologue Marcel Rioux dans les années 60, les notions de retard et de rattrapage ont eu une immense fortune dans l'analyse de l'histoire intellectuelle du Québec, société longtemps en manque de modernité. Contrairement à ce qu'on entend souvent, je ne suis pas convaincu que ces deux notions soient purement et simplement les vestiges d'une conception historiciste et biaisée des phénomènes culturels et sociaux. Je doute qu'on puisse s'en passer, et à mon sens, l'une et l'autre conservent des vertus heuristiques. Par contre, elles faussent véritablement la perspective quand elles concourent à construire ou à imposer une grille de lecture exclusive. J'essaierai ici d'insister plutôt sur une autre idée, la notion de contretemps, qui respecte davantage l'intuition d'Hénault, dont j'ai parlé en ouverture, et la complexité, mais aussi les aléas de la construction d'une littérature. Reconnaissons d'abord que l'histoire littéraire québécoise a une certaine difficulté à penser le surréalisme québécois par rapport au surréalisme français. De même, l'affirmation de la singularité historique de l'automatisme québécois pose toutes sortes de questions, ne serait-ce que parce que la notion d'automatisme est au cœur, déjà, du premier manifeste du surréalisme, qu'on voit mal, à première vue, en quoi il y a là quelque chose d'un peu spécifique au Québec. Pour essayer de lever ces difficultés, envisageons un instant non pas l'histoire littéraire dans sa longue durée, donc ce n'est pas ce qui m'intéresse, mais le phénomène littéraire dans sa ponctualité relative. Ce que désigne Gilenot en parlant de Morin est en fait l'expérience de ce qu'on pourrait appeler un contretemps, qui implique une comparaison ponctuelle entre deux événements, deux situations ou deux temporalités courtes. Morin n'est donc pas en retard, une notion qui présupposerait une conception de l'histoire dont le point d'arrivée et même l'itinéraire sont déjà connus et bien sûr éminemment désirables. Morin écrit plutôt à contretemps. La notion de contretemps suspend le jugement de valeur et brouille quelque peu les cartes. Elle implique que nous mettions de côté l'éventualité même d'une histoire unique, d'un parcours unique et anticipé, pour nous concentrer sur des configurations temporelles distinctes d'un espace culturel à l'autre. L'expérience du contretemps est celle d'un temps autre, d'un temps faible, et c'est vraiment ce qui m'intéresse plus précisément, donc un temps plus marginal, existant à côté du temps de référence. Elle se signale par une absence de simultanéité entre deux événements que nous avons pourtant toutes les raisons de comparer. Vivre le contretemps est une expérience courante dans le champ littéraire québécois dans les années 10 comme dans les années 40. Dans le cas du surréalisme et de l'automatisme au Québec, ce contretemps prend plusieurs formes. Du rendez-vous manqué de Breton avec le milieu des automatistes en 44, au refus de participer collectivement à l'exposition internationale du surréalisme en 47, en passant par la publication passée inaperçue du Vierge incendié en 48, et par la mort prématurée de Paul-Émile Bordua en 1960. L'ensemble de ces détails d'importance variable, dont certains sont tout à fait mineurs, participent à ce qui définit historiquement l'héritage du surréalisme et de l'automatisme au Québec et expliquent notamment le silence à peu près total qui entoure l'expérience québécoise du surréalisme dans l'histoire générale du mouvement, le travail de Bernard Le Cherbonnier, et une heureuse exception à la règle. Alors, pour approfondir un peu tout ça, je voudrais donc m'appuyer sur l'œuvre en prose de Gilenot, que j'ai édité en partie en 2008, et qui constitue, à mon avis, l'une des perspectives les plus fines sur le sujet. Le point de vue d'Hénault est intéressant à plus d'un titre. Au milieu des années 40, il est proche des automatistes, fait plus proche que, qu'on le pense habituellement, au point d'œuvrer à la fondation d'une revue commune qui ne verra pas le jour, mais ses convictions politiques et leurs graves conséquences professionnelles ont pour effet de l'éloigner du groupe. Par ailleurs, il connaît fort bien le milieu de l'art contemporain, puisqu'il s'est situé lui-même longtemps à la marge, mais il participe plus tard à la construction d'un discours plus officiel sur l'art au Québec lorsqu'il devient directeur du Musée d'art contemporain de Montréal dans les années 60. Il est donc dans une position intermédiaire à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du mouvement. Cela lui permet de jeter un regard singulier sur l'histoire de l'automatisme et sur celle du surréalisme au Québec. Ce qui frappe d'emblée, et je ne vais pas vraiment approfondir, mais je voudrais le mentionner en passant, c'est qu'Hénault retient du surréalisme des leçons étonnamment précises et assez, résumer en quelques points. Des leçons étonnamment précises, si l'on tient compte du fait qu'il se prononce sur la question, sur sa vision du surréalisme, sur une très, très longue période, en fait, 50 ans. 50 ans de poésie. Et donc, ce qu'il retient, ce sont principalement les éléments suivants. Le premier point, ce serait le pouvoir de détonateur, déjà, du surréalisme, ce qu'il appelle sa force libérante. Il entend par là le sens du risque, le sens de l'aventure, un certain rapport au quotidien, même un quotidien aliénant qu'il faut assumer, une préoccupation pour le désir et pour l'amour, donc tout à fait en phase avec Claude Gauvreau sur ce plan. Une certaine attitude aussi, la plus grande naïveté possible devant le réel, qui prend en compte les joies du hasard. Un quatrième point, la conscience la plus aiguisée à l'égard de soi-même, donc une certaine posture critique. Et enfin, dernier point, l'expression est de Hainaut, un non-conformisme raisonné sur le plan social, donc une volonté de révolte et la conviction que l'homme a un rôle à jouer dans l'histoire. Chacun de ces points est en rupture relative, ou en tout cas quand même assez nette, avec ce qui précède l'histoire de l'automatisme. Alors, malgré tout ça, malgré tout ce que Hainaut retient du surréalisme, il manifeste une certaine ambivalence face à son influence au Québec. Et je cite Hainaut, en fait, dans une entrevue avec Jacques Brault en 85, « Je trouve que l'influence que le surréalisme peut avoir eue ici est en même temps matinée, si on peut dire, d'influence québécoise. C'est-à-dire que le surréalisme ne nous a jamais pénétré vraiment. On était trop loin des conditions qui ont fait naître le surréalisme. Alors, on a pris certains aspects, certaines méthodes aussi, peut-être, mais pour ce qui est de l'esprit même du surréalisme, ce n'est pas très évident ici au Québec, même chez ceux qu'on considère comme les poètes les plus surréalisants. » Et déjà, en 1958, dans un essai très connu intitulé « La poésie et la vie », il écrivait à peu près la même chose. « Nous voyons surgir devant nous ces étranges floraisons. » Il parle de la poésie française de l'immédiate après-guerre. Donc, « Nous voyons surgir devant nous ces étranges floraisons sans participer réellement à l'esprit qui les fait naître. Nous établissons la filiation. » Donc, la question de l'héritage est posée explicitement, comme si les poètes, à travers les frontières, à travers le temps, à travers ce qui constitue leur existence même, pouvaient nous transmettre je ne sais quel fluide mystérieux qui nous permettrait de les continuer. Donc, à son avis, c'est absolument impossible. Alors, je cite ces deux passages un peu longs parce que la réserve d'Hainaut peut sembler un peu curieuse, dans la mesure où il paraît assez évident que le surréalisme a une réelle emprise sur l'histoire de la poésie québécoise, une emprise très, très, très grande jusque dans les années 60. On n'a qu'à penser à l'importance d'Éluard, un signe parmi tant d'autres, là, l'importance d'Éluard chez nous lui-même, mais aussi chez Gaston Miron, chez Giguère, chez Lapointe. Chez Lapointe, quatre des voix les plus singulières de la poésie des années 60. La réserve d'Hainaut me semble cependant s'expliquer précisément par l'existence d'un contretemps tout à fait déterminant. Il tient dans un détail historique. Le mouvement surréaliste n'est véritablement connu au Québec qu'à partir des années 40, soit 20 ans après sa naissance. Il y a, là encore, quelque chose qui va plus loin que le constat d'un simple retard. En effet, ce décalage temporel, dont on ne doit pas seulement considérer les effets négatifs, fait en sorte que la réception du surréalisme au Québec est contemporaine de la Seconde Guerre mondiale. Et si la guerre a provoqué le développement sans précédent du champ éditorial québécois, elle a favorisé tout autant une meilleure diffusion de la littérature française contemporaine et notamment du surréalisme via Pellan, via l'accueil de Français en exil, dont Breton, via New York, via Aimé Césaire. Comme le dit Hainaut, le surréalisme est apparu au Québec au moment où ses efforts coïncident largement avec ceux de la poésie de la Résistance. Ce simple détail, cette coïncidence, donne une couleur propre au surréalisme québécois. Et sur cette base, Hainaut, notamment, a d'emblée posé la question de l'engagement et de la difficulté. Donc, l'engagement non pas pour reprendre le flambeau, mais au contraire, pour signaler la difficulté qu'il y avait à assumer un héritage poétique irrémédiablement lié à une tragédie historique que le Québec n'avait vécue que de très loin. C'est, à mon sens, ce qui explique la réserve d'Hainaut sur le sujet, mais aussi celle de Gaston Miron, par exemple, qui lit Éluard, et évidemment, on voit les traces d'Éluard dans son œuvre, sans se réclamer du surréalisme. Césaire permet une certaine réconciliation, mais ce n'est pas suffisant pour qu'à quelques exceptions près, cet héritage soit largement revendiqué à la fin des années 40 et dans les années 50 et 60. L'automatisme, je vais conclure avec ça, l'automatisme littéraire a un destin tout aussi curieux, puisqu'il compte fort peu d'adeptes et un seul porte-parole, comme vous le savez, Claude Gauvreau. Et Hainaut, son aîné en poésie, avoue à quelques reprises avoir pratiqué l'écriture automatique, mais avec prudence, comme une simple expérience impubliable. Il y a donc vraiment un fossé entre les deux. Par contre, il y a chez Hainaut une vraie admiration pour Gauvreau qui se situe sur un autre plan. Hainaut retient notamment de ses écrits sur l'art et de la réflexion théorique de Gauvreau une notion très importante, le monisme, que Gauvreau définissait ainsi, je cite Gauvreau, « L'existant est réductible, donc pour le moniste, pour l'intellectuel ou l'écrivain moniste, l'existant est réductible à un seul tout d'une seule substance, et cette substance est impondérable. » Genre d'affirmation de Gauvreau qu'on trouve très souvent dans ses écrits sur l'art. Donc, un refus du dualisme matière-esprit, le primat de la matière, mais c'est une matière impondérable en ce sens qu'elle ne peut pas être réduite au langage. Donc, je ne vais pas m'arrêter à cette question un peu complexe, mais ce matérialisme qui exclut toute transcendance, ce désir de mettre l'accent sur la gangue des sensations est certainement l'un des traits les plus marquants de la poétique d'Hainaut lui-même et peut-être l'une des différences d'accent les plus significatives entre automatisme québécois et surréalisme français. Mais là encore, le cours même de la poésie québécoise aurait sans doute été modifié en profondeur si un dernier contretemps n'avait pas joué, le refus de Gauvreau de publier. Je voudrais conclure quand même en lisant deux très courts poèmes de Gauvreau, puisque c'est ce qui nous rassemble. Et ce sont deux poèmes que j'aime beaucoup. Et ce qui me permettrait de faire le lien, c'est peut-être un commentaire. En fait, on pourrait discuter longuement de l'héritage de Gauvreau, qui est un des héritages les plus complexes dans la littérature québécoise, et la fascination, par exemple, d'Hainaut ou de Paul-Marie Lapointe pour Gauvreau. Et Paul-Marie Lapointe, dans une entrevue, disait notamment que l'œuvre de Gauvreau était tout à fait indigeste. Et évidemment, dans sa bouche, c'était un compliment. C'est une œuvre non récupérable qu'on a de la difficulté à s'approprier aussi, à digérer, et dont l'héritage est difficile. Et donc, je voudrais lire un poème qui s'intitule, qui va un peu dans cette veine-là, qui porte sur la question de la digestion, « L'estomac à ressort ». Tiré de poèmes de détention, donc je vais sans doute être moins éloquent que Jean-Marc Desjans, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Grue à jumelles, estrémente nos upif wallum, la déclamation des populites narquoises astreint à ce poème, les lois dirimantes de la pollucière nironglave. Je ressens sur mes crêtes le voile cimenté de la perruche Niblofel. Il a nivelé son cadenas. Je chante par-dessus les trucs. Et j'accapare, en mon dortoir dérisoire, la malsanté des tonnerres beiges. Le bègue rit sur l'épinette cendrée de l'éclair. Un deuxième et dernier poème, et je vais m'arrêter là, qui montre bien le rapport de Gauvreau à l'utopie. C'est peut-être une autre des pistes dont on pourrait parler dans cet héritage du surréalisme et de l'automatisme. L'impossible matin. Les corbeilles ont dégusté les offrandes qui appelaient le cercueil. On a dit « they never come back ». Et pourtant, les pas timides cheminent, les pas timides s'en viennent. Le monstre de fragilité adhère à un sol qui se dérobe et se dérobe avec lui vers l'existence mouvante. L'impossible a des dents qui semblent en bauxite. C'est le chavir, la chavirimade. Il est présent, debout, il témoigne, il est ce qui persiste et qui revit. Il est enfin ce qui vit. Voilà.
Alors, merci à Karim Larose pour cette notion de contretemps qui suspend le jugement, puis en même temps permet, dans ce temps autre, peut-être d'imaginer, comme il souligne dans sa conclusion, qu'il y aurait des traces du côté d'une utopie, peut-être même le réel absolu, peut-être l'appropriation ou la création d'un espace où nous deviendrions notre première référence avant de la faire éclater à nouveau, chose qui a toujours été en décalage, et on va sûrement pouvoir revenir à travers les questions sur cette notion de décalage, qui est un décalage au début du siècle. Est-ce que c'est un, au début du siècle dernier, est-ce que c'est un décalage qui a les mêmes constitutions, le même panorama, les mêmes objets qu'un décalage pouvant être imaginé presque impossible au début du 21e siècle? Est-ce que les moyens de communication, qui étaient entre autres la circulation des livres, la circulation des petites éditions particulières, est-ce que ce n'est pas quelque chose que, Internet a fait sauter? J'aimerais qu'on garde en tête que l'utopie reste une des choses à imaginer dans cette, peut-être dans cet autre temps marginal.